Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En Ouganda, l'universitaire et militante féministe ougandaise Stella Nyanzi, condamnée à 18 mois de prison en première instance pour avoir harcelé en ligne le président Yoweri Museveni, a été acquittée ce mercredi en appel. Madame Nyanzi avait été inculpée et placée en détention en novembre 2018 pour avoir posté sur son compte Facebook des propos jugés obscènes à l'encontre du président Museveni et surtout de sa mère, qui est morte en 2001. Dans ses commentaires, la militante féministe avait fait référence à l'anniversaire du chef de l'État et regretté dans un langage cru que celui-ci ait vu le jour. Résultat, Stella Nyanzi avait été condamnée en août 2019 à 1 an et demi de prison pour harcèlement en ligne, même si le tribunal n'avait pas retenu à son encontre l'accusation de propos offensants formulés par les procureurs. Dans sa décision annoncée aujourd'hui, le juge Peter Adonio a non seulement acquitté Mme Nyanzi, mais il a aussi rejeté l'appel du parquet concernant l'accusation de propos offensants. En République démocratique du Congo voisine, au moins 5 autres corps ont été retrouvés dans l'est du pays hier, 2 jours après le massacre d'au moins 10 personnes dans une attaque attribuée aux rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées. Le point avec Eddie Isango.
Les 5 corps ont été découverts mardi soir vers le parc national de Virunga. Le chef de groupement des Malambo, situé au sud-est de la ville de Beni, estime qu'il s'agit des corps d'habitants pris en otage par les rebelles ADF lors de l'attaque dans la nuit de lundi à mardi, ce qui porte à 398 le nombre de personnes tuées dans la région de Beni depuis début novembre. 8 civils, 1 militaire et 1 agent des services de renseignement étaient tués dans la dernière attaque. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, des passages lundi à Beni, a promis aux populations que les autorités faisaient tout pour mettre un terme à ces tueries. L'armée a engagé une offensive depuis novembre et plusieurs fois annoncé avoir capturé des fiefs des rebelles musulmans ougandais accusés des massacres répétés dans cette zone depuis 2014.
Élections au Togo, quelques 3 600 000 électeurs togolais sont appelés aux urnes samedi pour une présidentielle qui devrait reconduire pour un 4e mandat le président sortant Faure Gnassingbé, dont la famille est à la tête du Togo depuis plus d'un demi-siècle. Ce sentiment d'une victoire annoncée est d'ailleurs partagé par un grand nombre de Togolais de l'opposition qui ne croient plus à une vraie alternance démocratique par les urnes. C'est donc en un front divisé que les 6 candidats de l'opposition sollicitent les suffrages des électeurs. Politique en Guinée, plusieurs membres de l'opposition ont été interpellés hier lors d'une nouvelle journée de manifestation contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Les arrestations ont lieu à 2 semaines à peine des élections législatives et d'un référendum à très haut risque. Abdourahmane Dia.
À Conakry, la capitale, des heurts ont opposé en plusieurs endroits les forces de l'ordre à des manifestants qui avaient érigé des barricades. Au moins 5 manifestants ont été arrêtés et au moins 3 militantes du Front National pour la Défense de la Constitution ont été interpellées à Conakry. Selon leur avocat, Salifou Beyavogui, elles ont été inculpées d'attroupement illégal et troubles à l'ordre public avant d'être écrouées. Par ailleurs, un convoi du FNDC a été attaqué à coups de cailloux dans la préfecture de Kissidougou en Guinée forestière. L'opposition accuse des partisans du RPG au pouvoir. Un référendum constitutionnel est prévu le 1er mars, en même temps que des législatives boycottées par l'opposition qui menacent de tout faire pour empêcher la tenue de ces scrutins. Le pays est agité depuis mi-octobre par des manifestations contre le projet prêté au président Condé de vouloir briguer un 3e mandat fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Alpha Condé a laissé la porte ouverte à une éventuelle candidature, affirmant que c'est son parti qui décidera.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte anti-djihadiste dans le Sahel. Au Niger, 2 personnes ont été tuées mercredi dans l'explosion d'un engin près des locaux de la mairie de Guesquerou, région d'Ifa, dans le sud-est du pays. Les détails avec Jacques Aristide.
Un élu local croit que c'est une mine antipersonnelle qui a été enterrée à côté de la mairie de Guesqueyrou et qui a explosé au passage d'éleveurs. La ville, riveraine de la Komadougou, rivière qui sépare le Niger et le Nigeria, est exposée depuis 4 ans aux raids meurtriers du groupe Boko Haram. En août de l'année dernière, 12 villageois de cette commune avaient été tués lors d'une attaque attribuée à Boko Haram. 11 des victimes avaient été exécutées par balles et une autre avait été égorgée d'après les autorités locales. La région de Diffa abrite 263 000 réfugiés nigérians et des déplacés internes, chassés notamment par les violences djihadistes selon l'ONU qui s'inquiète du manque de fonds pour couvrir tous les besoins. Cette semaine, au moins 20 personnes sont mortes piétinées dans la même région lors d'une distribution de vivres à des déplacés.
Retour en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier, où la construction d'une série de passages surélevés devrait faciliter la circulation automobile. Un projet qui tient à cœur au président Félix Tshisekedi. Mais plus d'un an après le début des travaux, ces sauts de moutons, comme on les surnomme sur place, sont devenus un véritable cauchemar pour les Kinois, les habitants de la capitale. Saloua Jafari.
On les appelle les sautes-moutons, des voies érigées au-dessus des boulevards censées décongestionner la circulation de Kinshasa. Depuis le début des travaux, les bouchons ont atteint des proportions épiques, comme ici sur le boulevard du 30 juin, où les voitures avancent à un rythme d'escargot. Jennifer Mwatambwe dit qu'elle est obligée de prendre 3, parfois 4 moyens de transport différents pour se rendre au centre-ville.
Les sauts de moutons ont affecté nos vies parce qu'en ce moment, je n'aurai plus le taxi d'ici jusqu'au magasin, mais je ne peux pas à cause de l'embouteillage. J'ai juste pris la moto. Vous pouvez voir maintenant que c'est même cher. Avant, c'était 1000 francs pour atteindre le magasin, mais maintenant, c'est 1500 et c'est beaucoup d'argent.
Lumbwaga Isanga partage son avis.
C'est par jour que je consomme 2 litres de chez moi sur 24, mais or, à l'époque, je consommais pas 2 litres d'essence.
Fraîchement élu, le président Félix Tshisekedi avait imaginé ce projet qui ferait une première impression audacieuse après qu'il ait succédé à son prédécesseur de longue date, Joseph Kabila. Au lieu de cela, plus d'un an après son investiture, les sautes-moutons sont pour la plupart à moitié construits en raison de retard dans la mobilisation des fonds, ce qui a provoqué des embouteillages et a piégé le gouvernement dans des accusations de corruption. Florimond Mouteba est président de l'Observatoire des dépenses publiques.
Nous avons demandé au Premier ministre de recommander qu'il ne décaisse plus rien tant qu'un audit sérieux n'a pas été fait sur... et sur le projet Saut de Mouton, et sur l'ensemble du programme donc des 100 jours.
Tshisekedi a promis en juillet que les sauts de moutons seraient un cadeau de Noël aux habitants de Kinshasa. Depuis lors, différents fonctionnaires ont présenté des rapports de situation très contradictoires.
Pour terminer, course à la présidence américaine côté opposition démocrate, le candidat Michael Bloomberg a été sévèrement critiqué mercredi soir par ses rivaux pour l'investiture démocrate dès l'ouverture de son premier débat télévisé de la campagne présidentielle à Las Vegas dans le Nevada. Cet état de l'ouest du pays sera le théâtre du troisième vote des primaires démocrates, Jean-Roger Bion.
D'une intensité rare, le ton a immédiatement monté entre les candidats qui espèrent défier le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. La sénatrice progressiste Elizabeth Warren a ouvert le feu, la première sur le milliardaire Bloomberg, l'accusant d'avoir soutenu des politiques racistes, en référence notamment aux interpellations et fouilles arbitraires Stop and Frisk. Ces actions sont accusées d'avoir suscité une explosion des contrôles aux faciès à New York lorsqu'il était maire. Cette pratique pour laquelle M. Bloomberg s'est récemment excusé après l'avoir longtemps défendu visait les Afro-Américains et les Hispaniques de façon indécente à tonner Bernie Sanders. Face à ces accusations reprises par d'autres sur le plateau, Michael Bloomberg a cherché à se présenter en démocrate le plus apte à gagner la présidentielle du 3 novembre en taclant notamment le socialiste Bernie Sanders qui n'a, selon lui, aucune chance de battre le président Trump. Fort de ses réussites dans l'Iowa et le New Hampshire, Pete Buttigieg a tenté mercredi de se présenter en alternative entre Messieurs Sanders et Bloomberg. Après une entrée très tardive dans la campagne, en novembre, Monsieur Bloomberg a opté pour une stratégie rarissime dans l'histoire des primaires américaines, faire l'impasse sur les 4 premiers États qui votent en février. À 78 ans, il entrera donc dans la course lors du Super Tuesday du 3 mars, lorsque 14 autres États voteront.
Et toujours ici aux États-Unis, Roger Stone, l'ancien conseiller de Donald Trump, sera fixé ce jeudi sur sa peine dans un dossier à la une de l'actualité à cause des interventions du président Trump et de son ministre de la Justice dans cette affaire qui suscite des remous ici à Washington. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.